Bonjour à tous. On a eu une belle surprise ce matin, Agnès et moi, de voir notre ami de Metz nous accueillir. Ça aurait dû être l'inverse, mais c'est lui qui nous a accueillis. Hein. Et c'est une joie parce que c'est un frère fidèle et on est content de se revoir de temps à autre puisqu'il aime venir en Bretagne. Ce matin, je vais vous parler d'encre, enfin, pas précisément d'encre et de voile, mais vous parler de navigation. Le titre de ce message, de cette exhortation qui est sur mon cœur depuis pas mal de semaines, c'est « Passons sur l'autre bord ». Passons sur l'autre bord. Notre lecture, tout d'abord, dans Marc, chapitre 4, à compter du verset 35. C'est le chapitre relatif à la tempête apaisée. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons sur l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous si peur ? Comment ? N'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui à qui obéissent même le vent et la mer ?» Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Et ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte : « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus ? Fils du Dieu Très-Haut, je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Et puis une autre lecture, une troisième lecture dans Matthieu 28, les versets 19 et 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin. Amen. » Voilà. Ce n'est ni à une promenade en mer, ni à une partie de pêche ou de plaisir que le Seigneur Jésus invite ses disciples à passer sur l'autre bord du lac. Il les invite à atteindre l'autre bord pour porter secours à un malheureux. Et quand l'on voit la description qu'il est faite de ce malheureux, on peut dire vraiment que c'était un homme malheureux. Le Seigneur n'est pas venu en touriste sur la terre des hommes, ni par plaisir, mais par nécessité. Sa mission étant de nous sauver. Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, 10. Alors, pour accomplir cette mission selon la volonté du cœur de Dieu, de son Père, il a été nécessaire que Jésus prenne un corps semblable au nôtre, qu'il marche au milieu des hommes, et en l'occurrence dans le texte que j'ai choisi ce matin, qui s'est imposé à mon cœur, que Jésus navigue avec ses disciples. Qu'au terme de son ministère, Jésus souffre la croix et meurt afin de nous acquérir un salut éternel. Et aujourd'hui, Dieu a besoin d'hommes, de femmes, de jeunes gens, de jeunes filles, prêts à relever ce défi, celui d'atteindre, quelles que soient les difficultés rencontrées, celui d'atteindre les hommes, les femmes voués à la peine éternelle et dans le malheur, afin de leur annoncer le message de la bonne nouvelle ou message du salut. Pour ce faire, Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation et nous faisons ambassadeurs pour Christ, 2 Corinthiens 5, 19. Alors, quelle est cette parole bienveillante? Quel est ce message que le Seigneur désire faire entendre à nos contemporains par notre moyen? C'est « Soyez réconciliés avec Dieu ». Amen. Cela se complique quand nous venons à préciser que cela ne peut se faire que par Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Si vous parlez de Dieu, vous trouverez des gens qui vous écoutent. Mais commencez à les amener sur le terrain de Jésus-Christ, mort sur la croix, pour les sauver, c'est beaucoup plus difficile et crée souvent de l'hostilité. Déclenche de l'hostilité à l'image de cet homme que Jésus rencontre. Qu'y a-t-il ? Qu'y a-t-il entre moi et toi ? Or, nous ne pouvons tenir d'autre langage, puisque seul Jésus a capacité à nous rapprocher de Dieu. N'est-il pas celui qui a reçu le ministère de la réconciliation, désigné comme unique intermédiaire dans l'Écriture? C'est un défi de taille que d'annoncer la bonne nouvelle, il nous faut le relever, puisque l'humanité tout entière gît dans le malin et a ce besoin de connaître Dieu, d'être réconcilié avec Dieu, le Créateur. L'homme, la femme, par leur désobéissance, étant éloignés de Dieu, séparés de Dieu. Alors, êtes-vous désireux, vous qui m'écoutez attentivement, et prêt à relever ce défi de faire connaître autour de vous le message de la bonne nouvelle? Ce défi résulte d'un choix. Moi aussi, je vais apporter un petit peu de mon témoignage. Tu es d'accord, Michel?
Bon.
Celui d'être passé avec Agnès, mon épouse, d'un rivage à un autre rivage. Ça remonte aux années 2006, c'est-à-dire passer de la Bretagne Nord à la Bretagne Sud. Après 34 années confortablement installé en terre malouine. De passer d'un bord à un autre bord, à l'autre bord, avec tout ce que cela implique d'inconnu et aussi de ce qu'il nous fallait quitter, notamment les amis. Bon, on est toujours resté amis, mais il y a la distance maintenant. Dans notre texte de référence, mais peut-être est-il bon que je vous dise comment les choses se sont faites, à partir de quoi. J'avais dans mon cœur, depuis toujours ou depuis longtemps, lorsque nous étions en activité l'un et l'autre, la pensée que je ne passerai pas la retraite à Saint-Malo. Et je le disais régulièrement. Je le disais, tu sais, Agnès, on ne passera pas notre retraite à Saint-Malo. Je le disais, et puis, voilà qu'un dimanche matin, le prédicateur parle de cet appel du Seigneur à passer sur l'autre bord. Et pendant sa prédication, j'ai dans mon cœur une vision intérieure, je précise bien, une vision intérieure, où je vois une main, un index de cette main, l'index de cette main, dessiné tranquillement, mais très précisément, les contours de la Bretagne. Je vois Saint-Malo, donc, où nous étions, Saint-Brieuc, Morlaix, Brest, et puis ça revient, Quimper, et Lorient, Vannes. Mais d'une manière très, très, très précise, je vois ce dessin, le dessin de cette carte. Bon. Et puis, ce doigt fait ceci. Il part de Saint-Malo pour venir se poser très précisément sur Vannes. Bon. Donc j'ai dit, tiens, voilà quelque chose qui me conforte dans l'idée que nous ne passerions pas notre retraite à Saint-Malo. Et donc, je dis à Agnès, tu sais, j'aurais quelque chose d'important à te dire. Alors, dans la voiture, en revenant du culte, elle me dit, c'est quoi que tu vas me dire? Ben, attends, on va se mettre à table, on va en parler tranquillement. Je vais te dire ce que le Seigneur m'a montré. Et je pense qu'il va falloir que l'on s'active et faire des démarches pour réaliser ce que le Seigneur m'a montré. Et en fait, le week-end qui a suivi, nous étions à Vannes pour tout simplement rechercher un appartement. Revenons à notre texte. Les disciples, en montant dans la barque, étaient loin de penser qu'ils affronteraient la pire tempête de leur vie. Et c'est bien connu que lorsque ce vent se lève sur un lac, ça peut être très délicat, très difficile à gérer. violent. Toutefois, ils ont reçu l'ordre, de passer sur l'autre bord. Il a été donné par le maître lui-même. Ce même jour, sur le soir, c'est important, Jésus leur dit « passons sur l'autre bord ». C'est un défi à relever. Lorsque nous avons accepté de nous installer dans le 56, nous étions loin de penser, mais alors, à 100 lieues, que quelques années plus tard, nous aurons à affronter la pire tempête de nos vies, où l'un comme l'autre, nous aurions pu sombrer corps et âme, mais Jésus était dans notre barque. Et mes amis, veillez à ce que Jésus soit toujours dans votre barque. Alors, trois défis à relever. Premier défi, celui de la foi en Dieu, celui de croire. Deuxième défi, celui de la vérité. Troisième défi, celui de la grâce. Premier défi, de la foi en Dieu. Imaginons-nous être l'un de ses disciples embarqués, non un anonyme, mais un proche du Seigneur, lequel a reçu 5/5 en plein cœur l'ordre de passer sur l'autre bord. Jusque-là, la navigation est facile, pour ne pas dire agréable. La mer est d'huile, une légère brise, gonfle la voile. Nous faisons route vers la rive opposée, cap fixé par le Seigneur. Aussi, nous sommes sans crainte. Nous sommes sans crainte, ils sont sans crainte. Mais voilà que le rivage que nous avons quitté il y a quelques instants s'estompe. Et tout à coup, nous prenons conscience, ils prennent conscience que nous sommes, qu'ils sont entourés d'eau de tous côtés. On regardait, c'était le Tour de France hier, l'arrivée seulement, on n'y passe pas notre temps. Mais comme c'était en Suisse et que nous aimons la Suisse, j'ai regardé pour voir Lausanne un peu. Et un commentateur disait que le lac a des profondeurs de plus de 300 mètres à certains endroits. C'est dire que on peut avoir peur. Naissent alors dans les cœurs des pensées diverses. Pourquoi passer sur l'autre bord ? Qui plus est, sur le soir, pour y rencontrer qui ? Serons-nous les bienvenus, tu crois ? Qui peut bien nous attendre ? Autant de pensées, de questionnements, d'interrogations pouvant engendrer des peurs, comme c'est le cas pour plusieurs des disciples. Maître, n'es-tu pas inquiet ? Nous périssons. Avant d'embarquer, Jésus n'avait-il pas enseigné les disciples sur le royaume de Dieu et la nécessité qu'il y a de rencontrer Dieu ? Et toi, mon ami, es-tu entré dans la famille de Dieu ? En acceptant son Fils Jésus-Christ comme sauveur de ton âme ? Qu'en est-il de ta relation personnelle, de ta filiation avec le Dieu de la Bible ? Et je ferme cette parenthèse. Si Dieu a jugé bon de nous faire entrer dans sa famille, la famille de Dieu, de faire de nous, par adoption, des fils et des filles, mais que devons-nous craindre ? Jésus n'est-il pas dans la barque ? Tu objecteras, vous objecterez. Il dort, il est vrai. Toutefois, non du sommeil de la mort, puisqu'il est le Seigneur de la vie. Et de fixer tout à nouveau notre attention sur le cap à tenir et de maîtriser alors notre pensée. D'ailleurs, j'ai foi dans le Dieu créateur, n'est-il pas au commencement de toute chose ? Quand Jésus, la parole faite Quant à Jésus, la parole faite chair, n'est-il pas écrit de lui « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie. » Vous l'avez reconnu, c'est la citation du prologue de Jean. Mon ami, doute si tu veux, moi Jean-Louis, je lui fais confiance. J'ai confiance en ce Jésus des Écritures, dans le Dieu de la Bible. Mais les réalités du moment, pour certains, l'emportent sur tout raisonnement. Le vent ne faiblit pas, et voilà que l'on écope sans discontinuer. Verset 37 de notre texte, il s'éleva un grand tourbillon, un grand vent, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Vous aurez, frères et sœurs, vous qui êtes décidés, fermes, à poursuivre la route, la navigation, vous aurez autour de vous des personnes, voire des frères, des sœurs, qui vous douteront et vous le feront savoir. Quand nous avons annoncé à l'église de Saint-Malo que nous allions la quitter, suite à ce que j'avais clairement reçu, seul notre pasteur, quasiment, n'a pas douté de notre détermination. Quand Dieu parle, soit au travers de sa parole, d'une prophétie authentiquement inspirée, comme il y en a eu ce matin, d'un songe ou d'une vision, il y a nécessité de prendre ces indications, ces révélations au sérieux. Dieu n'a pas pour habitude de parler à nos cœurs pour ne rien dire ou de nous interpeller, sans tenir à ce que Dieu nous dit, à ce que Dieu nous révèle. Mais certains des disciples, comme je l'ai déjà souligné, préféraient partager leurs appréhensions, communiquant de ce fait aux plus faibles leur peur que cette navigation suscitait. Ils avaient perdu de vue le défi à relever, celui de croire en Dieu et en Jésus-Christ. Deuxième défi de la vérité. Vous le savez, la vérité n'est pas toujours bonne à dire, par déduction à entendre, pour reprendre un cliché classique. La vérité, lorsqu'elle émane de Dieu, met parfois le doigt sur une faille, et cette vérité, nous n'aimons pas l'entendre. Encore moins la recevoir dans le fond de notre cœur. Dans la circonstance présente, c'est une situation inattendu, qui va révéler des attitudes contraires à la foi, un manque de foi de la part des disciples qui pourtant sont à proximité du Seigneur. Il est vrai que le vent s'est soudainement levé, que la barque prend l'eau de toutes parts. Cette situation nouvelle, inattendue, impressionne, suscite peurs et craintes. Rien ne laissait prévoir ce coup de tabac. Comme les tempêtes de la vie, et vous saviez combien il y en a, comme les tempêtes de la vie qui ne préviennent pas. Ça vous tombe dessus, ça fond sur vous, et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il m'arrive? Mais Dieu est fidèle, ne pas l'oublier. On n'a pas vu s'accumuler les nuages noirs, la houle se former, le vent se lever, et c'est le drame. D'où la nécessité d'avoir Jésus dans sa barque. Ces situations diverses, imprévisibles, inattendues, mettent en évidence notre fragilité. N'avons-nous pas entendu ce matin que quelqu'un était très, 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 très énervé? Mais ça a été l'occasion pour le Seigneur de lui redire tout l'amour qu'il lui porte. Il porte à cette personne, parce qu'elle croit au Fils de Dieu, en Jésus-Christ, sauveur du monde. Ces situations diverses, imprévisibles, inattendues, mettent en évidence notre fragilité. Vous savez, un changement de faculté pour un jeune, de ville, de région, une situation de famille nouvelle, la perte d'un emploi, celle d'un être cher. Et très vite, les questionnements, être là, les peurs, les craintes s'installer dans le cœur. La crainte de l'autre, de l'étranger colocataire, la peur de l'inconnu, du lendemain, de l'avenir. Aussi, nous n'aimons pas toujours entendre la vérité ou en prendre conscience. Il y a une vérité spirituelle qui nous concerne tous, que nous n'aimons pas trop que le Seigneur nous le rappelle, à savoir que nous sommes pécheurs par nature. Pas s'il vous est arrivé qu'il vous le dise, à vous, mais il est arrivé qu'il me le dise, que je suis pécheur. Et si nous n'y prenons pas garde, nous qui sommes affermis, qui traçons notre route, on fait la mauvaise découverte que la vieille nature n'est pas très loin, que le vieil homme n'est pas très loin, qu'il revient même au galop. Enclin à pécher, lorsqu'un homme en prend conscience, il est tout simplement effrayé, désemparé, effaré. L'important n'est pas de se voir, mais de voir comment Dieu, lui, nous perçoit. Le regard qu'il porte sur nous, c'est cela l'important. Les disciples se sentent soudainement seuls parce que le maître se repose, la tête posée sur un coussin. Certainement que dans le cœur de quelques-uns, il y a eu cette réflexion. Est-ce vraiment le moment de dormir comme il le fait, lui, le maître? Alors ils vont le réveiller et ils vont lui dire, « Maître, nous périssons. » Martin Luther King a écrit ceci, « Les tempêtes sont des heures pour approfondir notre confiance en Dieu. » C'est le but que Dieu poursuit, savoir lui faire confiance. Alors deux ou trois écopes sans discontinuer, mais en vain sont leurs efforts. Est-il besoin de rappeler qu'en ce qui concerne notre salut, nos efforts sont vains. Que le salut de Dieu ne peut s'obtenir que par la foi au Seigneur Jésus et dans l'œuvre accomplie à la croix, une fois pour toutes. Que nos œuvres n'interfèrent en rien dans ce domaine. J'ai vraiment eu besoin de me défaire de cette idée, tout catholique que j'étais, très, très, très croyant, pratiquant, que mes œuvres n'avaient aucune valeur. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Écoutez bien cette vérité. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 8. Le défi que nous avons à relever, c'est de proclamer autour de nous la parole de Dieu, de la faire connaître, de la répandre, comme étant la parole vivante, permanente ou éternelle de Dieu. Nous en sommes les dépositaires, et d'ailleurs nous devrions toujours avoir un petit évangile, un Nouveau Testament avec nous, afin de partager au gré des rencontres. Notre défi, dire en toutes circonstances la vérité et avoir, bien évidemment, un témoignage de vie en accord avec ce que nous proclamons, affirmons. Aguerris ou pas, se souvenir que c'est par grâce que nous sommes sauvés et que Jésus seul peut nous sortir de toute difficulté rencontrée dans la navigation. Peut-être ta foi a-t-elle faibli au point que tu somnoles, qu'après avoir cru fermement, tu en viennes à lui opposer tes raisonnements, en quelque sorte que tu sortes du rail, de la voie maritime toute tracée et de t'égarer en pleine eau. Vous connaissez le rail de Ouessant, hein. Le navire, il va bien le suivre, hein. Sinon c'est la catastrophe assurée. L'on réveille Jésus, il menace le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent, c'est ça, et il se fit un grand calme. Mais ce n'est pas fini. Dès qu'ils vont poser le pied sur l'autre rive, un homme réputé violent s'approche de Jésus et l'interpelle, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ?» Il est précisé que personne ne peut maîtriser cet homme, que les liens, les chaînes, les fers aux pieds ne peuvent le retenir. Quel accueil, mes amis. Je ne pense pas que les disciples s'attendaient à un tel accueil. Il est vrai qu'en tant que chrétiens, nous ne sommes pas toujours bien accueillis dans le monde. Jésus, dans sa prière sacerdotale, s'exprime ainsi, priant pour nous, « Je leur ai donné ta parole ». Et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. De les préserver du mal. Il y a cette promesse que nous avons relevée tout à l'heure dans Matthieu, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. » Jésus s'est engagé, s'engage d'être avec nous. Pour vous que j'exhorte dans la conclusion à ce message, dans un instant, je vous inviterai à entrer dans un autre défi, celui de l'évangélisation. D'accord ? Un autre défi, celui de l'évangélisation. Je voudrais entendre Amen, gloire à Dieu, Alléluia. Pour un monde en pleine déperdition, en pleine décadence, qui est violent, désemparé. Alors, le troisième défi, celui de la grâce, c'est que chaque disciple, avec ce qui vient de se passer, a les yeux fixés sur Jésus. Ils l'ont vu commander à la mer et au vent. Ils le voient là maintenant chasser avec autorité les démons. Il est celui qui présentement va redonner toute sa dignité à un homme malheureux, agité, dévêtu, violent et fou, qui va être, vous est-il dit, assis, vêtu et dans son bon sens. Ça, c'est l'Évangile. Et c'est cela qu'il faut dire à nos contemporains, que s'ils ont des soucis, s'ils n'ont aucune certitude, s'ils sont dans l'angoisse, dans l'inquiétude, qu'ils peuvent trouver une assise en Jésus-Christ et être à nouveau tranquille, paisible, dormir lorsqu'ils se couchent le soir d'un profond sommeil. C'est ça que nous avons à dire et à partager. C'est le défi qu'il nous faut relever, celui de la grâce qui est en Jésus-Christ. Et nous savons que si les difficultés abondent, surabondent même, que les difficultés sont là, présentes, terribles, la grâce n'est pas seulement prête à abonder, mais à surabonder. C'est encore une promesse de notre Seigneur. Jésus est venu dans le monde non pour des biens portants, mais pour des hommes et des femmes dans le malheur, dans la maladie, dans la dépression, dans la séparation, dans l'échec, dans la perdition éternelle. Et nous allons rester bouche fermée ? Non. Non. Moi, je vous invite ce matin à passer sur l'autre bord. Jésus est venu réconcilier les hommes avec Dieu et les sauver. Dans ces défis, ayons les regards fixé sur Jésus. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Qu'il est bon de regarder à Dieu et à celui qu'il nous a donné comme intercesseur, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et je dis avec conviction, l'impensable, l'inattendu, l'épreuve, le chômage, enfin plus pour moi, la maladie, la perte d'un être cher, si je suis dans les larmes, si je suis dans le souci, si je suis dans la difficulté, lui me relèvera. Alors, il est peut-être bon de préciser rapidement ce qu'est un défi. J'ai pris le Robert. C'est le fait de défier. Le fait de défier. C'est une invitation au combat. On parle de relever le défi, de relever le gant. C'est aussi le fait de provoquer quelqu'un incapable de faire quelque chose. On met quelqu'un au défi de. D'accord ? C'est aussi le refus de s'incliner, de se soumettre. On peut avoir un regard de défi. Et puis, c'est aussi le défi de surmonter un obstacle qu'une société, un groupe ou une personne doit surmonter. Je mets le défi de surmonter cette pandémie, par exemple. C'est d'actualité. En conclusion, j'ajouterai un quatrième défi, et c'est important. Le Seigneur nous a avertis par prophétie, voici quelques mois, par prophétie, qu'il allait nous bousculer. Tiens, il en a été question ce matin. Que le Seigneur allait nous bousculer, qu'il allait mettre, il l'a dit à quelqu'un d'entre nous, que sa vie est trop au carré et qu'il va le bousculer. Il y a des paroles inspirées qui se font entendre. Qu'est-ce que nous en faisons ? Le Seigneur nous a mis à cœur de bouger, de sortir de notre confort. Et je crois qu'il est en train de le faire. De nos habitudes, de notre quotidien, pour aller vers les âmes perdues, d'avoir en souci les âmes perdues. Je parlais samedi dernier avec une responsable des Gédéons de la région nantaise. Elle me disait, cessons de nous complaire d'être entre nous. L'heure, frère, l'heure est à l'évangélisation. Elle n'a fait que nous conforter, me conforter dans la conviction qu'il n'y a plus une minute à perdre. Ah, ça m'a touché, ça. Hein, ça me travaille. Et rebelote dimanche lors du culte où le pasteur invité, qui était un pasteur de la région de l'Est de la France, je n'ai pas retenu son nom, qui n'est plus en charge d'église mais qui est devenu itinérant et pourtant il est pas tout jeune, parle avec force, détail et justesse que nous devons nous préoccuper d'accueillir, voire de recueillir les déçus de la vie, les blessés du dehors. Pas mal ? Qu'il est enfin temps de nous préoccuper des âmes perdues dans le monde. Alors, Marc conclut son évangile en reprenant l'ordre de Jésus à ses disciples. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Voilà ce que j'ai depuis plusieurs semaines sur le cœur. Je vais devoir sérieusement y réfléchir et m'investir seul ou avec d'autres. Il y a une chose que je sais, c'est qu'Agnès est partante. D'ailleurs, elle a toujours dans son sac, toujours, un Nouveau Testament ou portion d'Évangile. Et elle n'hésite pas à remettre cette portion ou ce Nouveau Testament lorsque le dialogue s'engage, lorsqu'elle sent que la personne est prête à écouter, à recevoir, et qu'elle éprouve le besoin de parler. Alors, je vous laisse avec ces pensées, ce message. Je suis content de l'avoir délivré parce qu'il y a un moment qu'il est sur mon cœur. Et parfois, c'est difficile à contenir ou à... Je remercie le Seigneur pour son aide, pour l'aide de son esprit, et on va prier maintenant, si vous voulez bien.